Comme dans un livre, Marie-Christine Loubry. Dracula, de Bram Stoker. Roman traduit de l'anglais par Lucienne Molitor. Chapitre 8, suite. Lettre de Samuel F. Billington et fils, Solicitors à Whitby, à messieurs Carter, Patterson et compagnie à Londres. 1er août. Messieurs, nous avons l'avantage de vous annoncer l'arrivée des marchandises envoyées par les chemins de fer du Grand Nord. Elles seront livrées à Carfax, près de Purfleet, dès leur arrivée à la gare de marchandises de King's Cross. La maison est inoccupée en ce moment, mais vous trouverez, jointe à l'envoi, les clés qui toutes portent une étiquette. Vous voudrez bien déposer les 50 caisses dans la partie de la maison qui tombe en ruine et marquer d'un A sur le plan ci-joint. Votre agent reconnaîtra aisément l'endroit, étant donné que c'est précisément l'ancienne chapelle du manoir. Le train emportant les marchandises quittera Whitby ce soir à 9h30 et arrivera à King's Cross demain à 4h30 de l'après-midi. Comme notre client désire que les caisses arrivent à destination le plus tôt possible, nous vous serions obligés de les faire prendre à King's Cross exactement à l'heure dite et de les faire conduire immédiatement à Carfax. D'autre part, afin d'éviter tout retard quant au paiement, vous trouverez ci-joint également un chèque d'une valeur de 10 livres dont vous voudrez bien nous accuser réception. Si les frais étaient en deçà de ce chiffre, vous nous retourneriez le reliquat. Si au contraire il le dépassait, nous vous enverrions un second chèque des avis de votre part. Les clés devront être laissées dans le corridor de la maison, afin que le propriétaire les y trouve dès qu'il ouvrira la porte d'entrée avec sa propre clé. En espérant que vous ne nous jugerez pas trop exigeants dans cette affaire, si nous vous prions encore de faire diligence, nous vous restons, messieurs, sincèrement dévoués. Samuel F. Billington et fils. Lettre de messieurs Carter, Patterson et compagnie, Londres. À messieurs Billington et fils, Whitby, 21 août. Messieurs, nous vous accusons réception de votre chèque de 10 livres et nous vous expédions un chèque de 11 shillings qui nous ont été payés en trop. Les caisses ont été livrées selon vos instructions et les clés, liées les unes aux autres, laissées dans le corridor. Veuillez croire, messieurs, à nos sentiments respectueux. Pour Carter, Patterson et compagnie. Journal de Mina Murray, 18 août. J'écris ces lignes assise sur le banc du cimetière. Lucie va beaucoup mieux aujourd'hui. La nuit dernière, elle ne s'est pas réveillée une seule fois. Encore qu'elle soit très pâle et paraisse bien faible, ses joues reprennent cependant un peu de couleur. Si elle était anémique, cette pâleur pourrait se comprendre, mais il n'en est rien. Elle est d'humeur joyeuse, très gaie, vraiment. Elle est enfin sortie de son silence morbide et elle vient de me rappeler, comme si j'avais eu besoin qu'on me le rappelât, cette nuit horrible et que c'était ici, sur ce banc même, que je l'avais trouvée endormie. Tout en parlant, elle frappait gaiement du talon la pierre tombale. Mes pauvres petits pieds ne faisaient pas beaucoup de bruit cette nuit-là. J'imagine que le pauvre Monsieur Swells aurait dit que c'était parce que je ne voulais pas réveiller Georgie. La voyant dans de telles dispositions, je lui demandais si cette fameuse nuit, elle avait rêvé. Avant de me répondre, elle fit à un moment ces mines charmantes que son Arthur aime tant, paraît-il. Au vrai, je ne m'en étonne pas. Puis elle reprit, un peu comme dans un rêve, essayant, eût-on dit, de se souvenir elle-même de ce qui s'était passé. Non, je n'ai pas rêvé. Tout me semblait réel. Mais je désirais être ici, à cet endroit, sans savoir pourquoi. J'avais peur de quelque chose. Je ne sais pas de quoi. Je me souviens très bien, et pourtant sans doute étais-je endormie, d'être passée dans les rues, d'avoir traversé le pont. À ce moment-là, un poisson sauta au-dessus de l'eau, et je me penchai par-dessus le parapet pour le regarder. Puis, comme je commençais à monter les escaliers, des chiens se mirent à hurler, On eût dit que la ville était peuplée de chiens qui hurlaient tous à la fois. Ensuite, j'ai le vague souvenir de quelque chose de long et de sombre, avec des yeux flamboyants, juste comme nous l'avons vu l'autre soir dans le soleil couchant, tandis que j'avais l'impression d'être entouré de douceur et d'amertume tout ensemble. Ensuite, ce fut comme si je m'enfonçais dans une eau verte et profonde. Un bourdonnement remplissait mes oreilles, comme il se fait, dit-on, chez ceux qui se noient. Alors il me sembla ne plus exister. Mon âme s'envolait de mon corps, flottait dans les airs. Je crois me souvenir que le Far West se trouvait juste en dessous de moi. Puis j'ai eu une sensation de douleur, comme si je me trouvais au milieu d'un tremblement de terre, et enfin je suis revenu à moi. Tu étais en train de me secouer. J'ai vu tes gestes avant de les sentir. » Elle se mit à rire, ce qui, je l'avoue, me parut étrange, inquiétant. Je l'écoutais rire en retenant mon souffle. La voir ainsi me faisait mal. Je jugeais qu'il valait mieux qu'elle ne pensât plus à cette aventure. J'amenai donc la conversation sur un autre sujet, et tout de suite elle redevint elle-même. Lorsque nous rentrâmes à l'hôtel, la brise l'avait ravigotée, et ses joues pâles étaient réellement plus roses. Sa mère se réjouit de la voir ainsi, et toutes les trois, nous passâmes une très bonne soirée. 19 août. Que je suis heureuse. Heureuse ? Non, ce n'est pas le bonheur. Mais enfin, j'ai des nouvelles de Jonathan. Le pauvre, il a été malade. C'est pourquoi il est resté si longtemps sans écrire. Je suis rassurée, maintenant que je sais à quoi m'en tenir. Monsieur Hawkins m'a transmis la lettre que lui a adressée la religieuse qui soigne Jonathan, et lui-même m'a écrit un mot fort aimable, comme toujours. Dès demain, je pars pour aller le retrouver. Si cela est nécessaire, j'aiderai à le soigner, puis nous reviendrons ensemble en Angleterre. Monsieur Hawkins me conseille de nous marier là-bas. J'ai tant pleuré en lisant la lettre de la bonne sœur que je sens encore, dans mon corsage où je l'ai glissée, la feuille de papier toute mouillée. C'est lui qui l'a dictée, et je dois donc la garder tout près de mon cœur, puisque lui, il est dans mon cœur. Mon voyage est arrangé et ma valise prête. Outre la robe que je mettrai demain matin, je n'en emporte qu'une seule. Lucie expédiera ma malle à Londres et la gardera chez elle jusqu'à ce que je lui demande de me l'envoyer, car peut-être, mais je ne dois pas en écrire davantage. Je dois d'abord parler de cela à Jonathan, mon mari. Cette lettre qu'il a vue et touchée de ses doigts sera pour moi un réconfort jusqu'à ce que je sois auprès de lui. sœur Agatha de l'hôpital Saint-Joseph et Sainte-Marie, Budapest. À Miss Wilhelmina Murray, 12 août. Madame, je vous écris cette lettre à la demande de Monsieur Jonathan Harker, qui est encore trop faible pour le faire lui-même, bien que son état de santé s'améliore de jour en jour, grâce à Dieu, à Saint-Joseph et à Sainte-Marie. Il est arrivé chez nous voici près de 6 semaines, atteint d'une crise cérébrale assez grave. Il me prie de vous dire que vous avez toutes ses pensées et de vous avertir que, par le même courrier, j'envoie également une lettre à M. Peter Hawkins d'Exeter, dans laquelle j'exprime les regrets de mon malade de n'avoir pas pu lui faire savoir plus tôt que l'affaire pour laquelle il était venu dans ce pays est entièrement réglée. M. Harker aura encore besoin de quelques semaines de repos dans notre sanatorium, mais il pourra alors retourner en Angleterre. Il me demande aussi de vous dire qu'il ne dispose pas de tout l'argent qui lui serait nécessaire, car il désirait payer le séjour qu'il fait ici afin de venir en aide aux malades qui sont dans le besoin. Je prie pour vous, madame, et me dis sincèrement votre, sœur Agatha. Postscriptum. Mon malade s'étant endormi, je rouvre cette lettre pour vous écrire encore quelques mots. Il m'a beaucoup parlé de vous, m'a appris que vous deviez bientôt vous marier. Tous mes vœux à vous et à lui. D'après le médecin qui le soigne, il a reçu un choc terrible, et dans son délire, moi-même, je l'ai entendu parler de choses effroyables, de loups, de poison et de sang, de fantômes et de démons, d'autres choses encore que je n'ose pas nommer. Pendant longtemps, il vous faudra prendre garde de ne pas lui remémorer l'un ou l'autre de ces sujets pénibles. Les traces de la maladie dont il a souffert ne s'effacent pas facilement. Nous aurions voulu vous avertir plus tôt de tout ceci, mais nous ne savions pas à qui écrire, n'ayant l'adresse d'aucun de ses amis, d'aucun de ses parents, et il n'avait sur lui aucun papier que nous aurions pu déchiffrer. Il est arrivé chez nous en débarquant du train de Klausenburg, et le chef de gare lui avait fait donner un billet pour la gare la plus proche. Il est très bien soigné, soyez-en certaine. Par sa bonté et sa douceur, il a gagné ici tous les cœurs. Réellement, comme je vous le disais au début de cette lettre, il va de mieux en mieux. Mais, je le répète également, vous devrez veiller à sa tranquillité d'esprit. Je prie Dieu et Saint-Joseph et Sainte-Marie qu'ils vous accordent à tous deux beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années heureuses. Journal du docteur Seward, 19 août. Changement soudain et bizarre chez Renfield hier soir. Vers 8 heures, il est devenu fort excité et il s'est mis à renifler comme un chien lorsqu'il tombe en arrêt. Le surveillant, frappé de la chose et sachant combien je m'intéresse à ce malade, voulut le faire parler. D'habitude, Renfield lui témoigne beaucoup de respect et parfois même se conduit avec lui avec servilité. Mais d'après ce qu'il m'a raconté, ce ne fut pas le cas cette fois-ci. Il l'a traité de haut, sans lui répondre quoi que ce fût. Il lui a seulement dit « Je ne veux pas vous parler, vous n'existez plus pour moi. Le maître est près d'ici. » Le surveillant croit qu'il est pris d'un accès de folie mystique. S'il en est ainsi, nous devrons nous attendre à de belles scènes, car un homme aussi robuste que lui, s'il est atteint de folie à la fois mystique et homicide, peut devenir dangereux, très dangereux. À 9 heures, je suis allé le voir. Il eut envers moi exactement la même attitude qu'envers le surveillant. Il semble que, dans son état d'esprit actuel, il ne fasse plus aucune différence entre le surveillant et moi. Sans doute est-ce, en effet, de la folie mystique, et bientôt il se prendra pour Dieu lui-même. Ces mesquines distinctions entre deux hommes ne sont pas dignes d'un être tout-puissant, comme ces aliénés se trahissent. Le Dieu véritable veille sur un moineau, protège son existence. Mais le Dieu que crée la vanité humaine ne distingue pas un aigle d'un moineau. Pendant une demi-heure et même davantage, Renfield se montra de plus en plus excité. Tout en feignant de ne pas l'observer, je suivais pourtant chacun de ses mouvements. Tout à coup, je vis dans ses yeux ce regard sournois que les fous ont toujours lorsqu'ils se sont arrêtés à une idée. Et en même temps, il secouait la tête, ce que les surveillants des asiles connaissent trop bien. Puis il se calma, et avec un air de résignation, alla s'asseoir sur le bord de son lit. Il se mit à regarder dans le vague avec des yeux éteints. Je voulais savoir si cette apathie était réelle ou simulée, et j'essayais de le faire parler de ces petites bêtes, sujet qui n'avait jamais manqué encore d'éveiller toute son attention. D'abord, il ne répondit pas. Puis, finalement, il dit avec humeur « Au diable tout cela, peu m'importe ». Comment ? L'interrompis-je. Vous n'allez pas me dire que vous ne vous intéressez pas aux araignées ? Car depuis quelques jours, sa principale marotte, ce sont les araignées. Et son calepin est rempli de petits chiffres. À ceci, il répondit d'une façon énigmatique. Les demoiselles d'honneur réjouissent les yeux de ceux qui attendent l'arrivée de la mariée. Mais quand vient celle-ci, les demoiselles d'honneur n'ont plus aucune importance aux yeux des invités. Il ne voulut pas s'expliquer davantage et, obstinément, resta assis sur le bord de son lit tout le temps que je demeurais dans sa chambre. Je suis très fatiguée ce soir et fort abattue. La pensée de Lucie m'obsède continuellement et je ne puis m'empêcher de me dire à chaque instant que tout aurait pu être différent. Si ce soir, aussitôt couché, je ne trouve pas le sommeil, eh bien, alors le chloroforme, ce morphée moderne, voilà. Mais je dois prendre garde de ne pas en faire une habitude. Non, ce soir, je n'en prendrai pas. J'ai beaucoup pensé à Lucie, et je ne ferai pas tort à son souvenir en voulant à tout prix oublier. S'il le faut, cette nuit, je ne dormirai pas. Plus tard, heureux d'avoir pris cette décision, et surtout de l'avoir tenue. J'étais à me retourner dans mon lit d'un côté puis de l'autre et je venais d'entendre sonner 2 heures, seulement 2 heures, quand le veilleur de nuit frappa à ma porte. Il venait me dire que Renfield s'était échappé. Je m'habillai en toute hâte et descendis. Mon malade est trop dangereux pour se contenter d'errer dans les environs. Ses idées fixes peuvent constituer un véritable péril pour les gens qu'il viendrait à rencontrer. Le surveillant m'attendait. Moins de 10 minutes auparavant, il avait vu, encore par le petit guichet pratiqué dans la porte de la chambre, Renfield étendu sur son lit, apparemment endormi. Mais ensuite, son attention attirée par le bruit d'une fenêtre que l'on ouvrait, et revenant en courant à la porte de Renfield, il avait vu les pieds de ce dernier disparaître par la fenêtre. Sans hésiter un instant, il m'avait fait appeler. Selon lui, Renfield, vêtu de sa seule chemise de nuit, ne devait pas être loin. Aussi valait-il mieux sans doute surveiller d'ici sa fuite que de tenter de le suivre immédiatement, car nous pourrions le perdre de vue si nous quittons la fenêtre pour gagner la porte de l'établissement. Mais fort et robuste, le surveillant ne pouvait pas songer à passer lui-même par la fenêtre. Comme je suis mince, il m'aide à sauter dans la cour et j'y réussis sans me blesser. Il me dit que le fugitif avait pris vers la gauche, tout droit. Je courus dans cette direction aussi vite que je pus. Lorsque j'arrivais près des arbres, j'aperçus une silhouette blanche qui escaladait le haut mur séparant notre parc de celui de la maison inhabitée. Toujours en courant, je revins dire au veilleur de nuit d'appeler immédiatement 3 ou 4 hommes afin de venir avec moi à Carfax. Au cas où Renfield deviendrait dangereux, nous devions être plusieurs si nous voulions tenter de le ramener. Je pris une échelle et, montant à mon tour sur le mur, je me laissai tomber de l'autre côté. Au même moment, je vis Renfield disparaître derrière la maison et courus pour le rattraper. Arrivé de l'autre côté de la maison, je le trouvais qui s'appuyait de toute sa force contre la vieille porte de chêne de la chapelle. Apparemment, il parlait à quelqu'un, mais je n'osais pas m'approcher de façon à entendre ce qu'il disait, car je craignais de le faire fuir. Poursuivre un essaim d'abeilles n'est rien comparé à la tentative de rattraper un fou à moitié nu qui s'est mis en tête de se sauver. Après quelques minutes cependant, je compris qu'il ne remarquait rien de ce qui se passait autour de lui. Aussi avançai-je vers lui, d'autant plus rassuré que mes hommes avaient maintenant franchi le mur et allaient le cerner. Je saisis ce qu'il disait. « Je suis à vos ordres, maître. Je suis votre esclave, et je sais que vous me récompenserez, car je serai fidèle. Il y a longtemps que je vous adore, de loin. Maintenant que vous êtes tout prêt, j'attends vos ordres. » Et vous n'oublierez pas, n'est-ce pas, cher maître, dans la répartition de vos bienfaits. Quel mendiant, en vérité. Il pense au pain et aux poissons, même lorsqu'il se croit devant la présence réelle. Ces différentes manies forment un mélange surprenant. Lorsque nous l'entourâmes et voulûmes le saisir, il se débattit comme un tigre. Il est d'une force incroyable, car il ressemble plus à une bête sauvage qu'à un homme. Jamais encore je n'avais vu un aliéné pris d'une telle fureur, et j'espère que c'est la dernière fois. Heureusement, nous nous sommes aperçus à temps et de sa force et du danger qu'elle représentait. Je n'ose pas penser à ce qu'il aurait pu commettre si nous ne l'avions pas repris. Maintenant, en tout cas, il est en lieu sûr. Jack Shepherd lui-même ne parviendrait pas à se dégager de la camisole de force que nous lui avons mise. et il est attaché par des chaînes au mur du cabanon. De temps à autre, il pousse des cris épouvantables, mais le silence dans lequel il s'enferme ensuite est autrement inquiétant, car on y devine des tentations de meurtre. Il vient pour la première fois de prononcer quelques phrases cohérentes. « J'aurai de la patience, maître. Je saurai attendre, attendre, attendre. » Moi aussi, j'attendrai. J'étais trop excitée pour dormir, mais écrire ces pages m'a calmée, et je sens que je dormirai quelques heures la nuit prochaine. »